travaille à l'INRA et je suis à Avignon depuis 1968, donc sur les aspects de change, non pas de changement climatique, de climat, d'influence du climat sur les plantes en général, et donc des études sur les microclimats que j'ai complétées après par pas mal d'années passées sur l'utilisation possible des satellites qui s'appelle la télédétection. Donc c'est comme ça que on a dû se croiser avec Gérard Vidal. Et puis depuis quelques années, le climat maintenant, on parle plus du climat, on parle de changement climatique, parce que si je reviens à il y a 30 ans, on nous disait on connaît tout sur le climat, donc même l'influence du climat sur l'agriculture et tout ça, c'est bien établi, donc il fallait qu'on fasse des choses différentes. Et puis, pour les raisons que vous connaissez, le climat est revenu au premier rang des préoccupations. Je dirais d'abord pour nous, avec une certaine interrogation, puisque bon, moi je m'étais retrouvé à la première conférence de l'OMM, ça remonte à 79, et j'avais découvert ces interrogations sur l'effet de serre. Alors je pouvais les comprendre, les conceptualiser en termes de conséquences sur le rayonnement, mais en même temps tout ça paraissait un peu comme à beaucoup. Une construction intellectuelle qui serait sans doute démentie ou en tout cas beaucoup atténuée. Beaucoup de gens se disaient, il y a un état d'équilibre. Bon, par exemple, dans notre domaine, on va venir un petit peu, si on augmente le gaz carbonique, ça va augmenter la photosynthèse, donc on en absorbera plus et puis il y aura des ajustements, comme toujours. Et puis donc, disait, ben on va voir, mais on verra pas parce que c'est prévu pour la fin du siècle, les effets majeurs. Il y avait des premiers modèles relativement simples qui donnaient un réchauffement de 2, 3, 4 degrés à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, 20 ans ou 30 ans après, finalement, l'ordre de grandeur est pas tellement différent et que toutes les interactions qui ont été introduites depuis, pour évidemment beaucoup perfectionner ces premiers modèles un peu rudimentaires, mais finalement ça change pas beaucoup l'ordre de grandeur, et à la limite, si on prend en compte les interactions, pratiquement toutes vont vers une augmentation des effets possibles et pas vers une réduction, contrairement à ce qui était vraiment pensé un petit peu à l'époque. Donc voilà, donc depuis quelques années maintenant, je suis à plein temps là-dessus. Et donc, au niveau de l'INRA, on a organisé une mission qui s'appelle Changement climatique et effet de serre. Bon, mais c'est en gros mon travail. Et qui consiste à la fois coordonner les travaux et puis, du côté des différents chercheurs qui sont répartis dans différents centres et différentes disciplines, à les pousser à regarder cet aspect-là, soit pour le futur, soit des observations relativement récentes. Puisqu'au-delà des observations climatiques qu'on a aussi, bien sûr, on travaille pas mal avec les gens de Météo France, du CERFAEX, etc., mais aussi de propres réseaux d'observation, on a des analyses par ce qui est ressenti par là les végétaux, c'est ce qu'on va dire, et peut-être aussi certains animaux, depuis les insectes, les maladies, et éventuellement les maladies animales. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on essaye de stimuler et de faire converger. Voilà, alors si on considère en premier lieu la production végétale, bien sûr pour nous c'est celle qui va conduire à l'agriculture et donc aux produits que l'on consomme, mais globalement c'est la même chose pour la végétation naturelle, c'est la même chose pour les forêts. Donc si on regarde a priori ce que risque de faire le changement climatique, on a sur la partie gauche quelque chose qui finalement n'a rien à voir directement avec le climat, mais qui a à voir avec l'augmentation du CO2, qui est une augmentation de la photosynthèse. C'est quelque chose auquel je vais revenir un petit peu dans le détail ensuite. Quelque chose qui est parfaitement connu. Et quand je vous disais que il y a 30 ans, beaucoup de gens disaient il va y avoir un équilibre qui va s'établir, c'était déjà là-dessus qu'on pouvait s'appuyer. Donc, quand on augmente le taux de CO2 dans l'atmosphère ou dans une serre ou dans une cellule de culture, on s'aperçoit que la photosynthèse des végétaux est stimulée, plus ou moins. Mais donc cette photosynthèse, elle dépend de la température, alors bien sûr du rayonnement solaire en premier plan, mais ensuite de la température. Il y a un certain nombre de facteurs qui jouent et qui sont bien décomposés dans les cours qu'on avait. Donc à l'époque, c'était déjà quelque chose qui était connu. Et l'influence de la teneur en CO2 était bien indiquée, au point que c'est même utilisé par des serristes qui mettent du CO2 sur leur serre pour avoir sous leur serre pour avoir des feuilles plus larges, plus grandes, etc. Donc c'est quelque chose d'assez bien établi. Et si on reprend des cours sur la photosynthèse, vous trouverez sûrement ça. Enfin, il n'y a pas longtemps que j'ai revu un cours des années 70. Et alors, ils disaient, tous les facteurs varient, il n'y a qu'une seule chose qui est stable, c'est la teneur en CO2, manque de peau. C'est maintenant ce qui bouge le plus. Bon, alors il y a cette partie-là qui va jouer de toute façon. Et puis alors, sur la partie droite, l'augmentation de température, c'est quelque chose qui est évidemment complexe parce que beaucoup de fonctions vont être influencées et dans certains cas de façon positive, là aussi, ça va stimuler certaines productions jusqu'à certaines températures maximales qui seront des températures seuil. Il y a aussi des températures minimales qui sont des seuils, donc ça commence à se compliquer. Puis une influence qui est marquée ici, à laquelle on pense pas forcément au début, sur la durée du cycle. Donc, à partir du moment où la température joue sur l'apparition des différents stades, soit d'une culture, soit des végétaux, ça va modifier la durée d'un cycle. Bon, d'accord, mais le cycle, c'est la période pendant laquelle la plante va travailler. Donc, ça va pouvoir jouer tantôt en diminuant la production, dans le cadre, lorsque le cycle est défini à l'avance comme les cultures annuelles, soit au contraire en augmentant la durée de saison de végétation, comme sur les forêts. Donc on va illustrer tout ça. Donc on voit qu'il y a déjà des effets qui peuvent jouer un petit peu dans tous les sens. Alors ensuite intervient l'autre aspect, indépendamment de la photosynthèse, la durée du cycle, etc., c'est l'alimentation hydrique, qui va dépendre bien sûr des pluies, comme on le voit sur la droite, mais aussi ce qui est évapotranspiration potentielle. Donc la quantité d'eau qui est consommée au maximum par des plantes bien alimentées et qui dépend du climat. Donc quelles conséquences sur l'évapotranspiration potentielle? Voilà le point d'interrogation qui est lié à ce qu'on avait à gauche sur le rayonnement solaire. C'est en grande partie le déterminant principal de l'évapotranspiration, mais au passage, si on revient sur le rayonnement solaire, aussi la photosynthèse, si le changement climatique se traduisait par une réduction très importante du rayonnement, évidemment, ça ferait baisser la photosynthèse. Bon, les modèles climatiques, c'est pas le premier modèle, le premier paramètre qui est souvent sorti, le premier facteur climatique, c'est la température, la pluie, etc. Puis il faut aller chercher un peu plus loin pour voir les informations sur le rayonnement qui vont dépendre, bien sûr, évidemment, de l'effet sur la couverture nuageuse. Et là, ça devient un petit peu plus complexe. Mais enfin, en première approximation, le rayonnement n'est pas forcément tellement modifié, donc l'évapotranspiration, pas forcément beaucoup plus, contrairement à ce qu'on pense, même si un climat plus chaud va tendre à l'augmenter, mais moins que ce que peuvent penser certains qui utilisent des relations empiriques valables à une très grande échelle avec la température. Alors qu'en fait, l'effet va être un peu plus limité que ça. Vous allez lire partout que dans un climat plus chaud, les plantes vont beaucoup augmenter leurs besoins en eau. C'est vrai, mais c'est pas beaucoup. Là aussi, je pense qu'on y reviendra. Et du coup, on arrive en bas, la synthèse de l'évapotranspiration potentielle et des puits, c'est ce qui se considère en général sous l'ordre de bilan hydrique, le bilan de l'eau dans le sol, dans lesquels on va rajouter le bilan azoté, parce que c'est vrai bien sûr pour les cultures avec les apports de fertilisants, mais c'est vrai aussi pour la végétation naturelle. La teneur en azote va beaucoup interagir avec la teneur en bilan hydrique, en eau, déterminée par le bilan hydrique, et peut assez notablement influencer, un exemple, parce que je ne sais plus si j'y reviendrai, du coup je suis sûr de ne pas oublier, sur les observations récentes, il y a beaucoup d'observations sur les forêts de l'hémisphère nord qui montrent un accroissement de la production. C'est vrai par des mesures au sol, c'est vrai par satellite, on voit cette masse qui augmente, et depuis peu de temps, il y a des observations. Alors est-ce qu'elles sont ponctuelles et anecdotiques ou une tendance générale, mais c'est quand même détecté par satellite sur une bonne partie, par exemple, de l'Amérique du Nord, où la végétation ben, finalement commence à être un petit peu en déficit. Alors bien sûr, il y a des possibilités de conséquences de sécheresse, mais une des hypothèses possibles, c'est que si vous stimulez des végétaux comme la forêt, bon, ils vont se mettre à bien fonctionner, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Mais pour ça, ils vont avoir besoin d'azote, et comme les sols forestiers naturels sont très carencés en azote, il y a un moment où ils commencent à caler. Donc c'est une des interprétations possibles. Et aussi, on le voit, une des interactions qui risque de venir assez vite. Végétation stimulée par le CO2 si le climat est favorable, ok. Et puis au bout d'un moment, ben boum, on va tomber sur une limitation du côté de l'azote, et du coup ça va faire partie des rétroactions un petit peu complexes. Une végétation trop vigoureuse va encore plus finalement subir des contre-coups au final qu'une autre qui s'est adaptée à ses limitations en azote. Alors, bon, l'IPCC, GIEC, IPCC, vous en avez entendu parler abondamment. Donc, c'est bien sûr, il y a eu le rapport de 2007, on y reviendra, mais dans le rapport de 2001, il y avait la présentation des différents scénarios d'évolution du CO2, c'est la partie A, les conséquences sur la concentration à droite, et puis ce qui était les conséquences sur l'augmentation de température. Simplement par rapport à la concentration, et ça n'a pas beaucoup changé dans le rapport 2007, on a des perspectives au minimum, et en étant très optimiste, 450 ppm, c'est la ligne marron qui est là. Bon, on peut essayer d'y croire, comme penser qu'il n'y aura pas de dopage dans le Tour de France 2008, hein, on en a parlé hier. Bon, mais pour le moment, c'est pas vraiment. Donc, c'est un peu les familles qui sont au-dessus, et ben, si ça va vraiment très mal, on montera peut-être à 800, 900 ppm à la fin. Donc, parti pour millions. Vous savez qu'on est parti de 280, qu'on est à 350. Là, maintenant, on doit pas être loin de 380. On a même vu récemment que ça a augmenté. Il y a des papiers sur le changement climatique qui sortent toutes les semaines, hein, dans différents aspects. Donc, faut arriver à suivre tout ça. Mais on s'est aperçu que l'augmentation de CO2 était encore plus importante que ce qu'on croyait récemment, sur ces dernières années, avec des interrogations sur l'absorption par l'océan qui a l'air de caler, etc. Bon, bref, par rapport à nous, à notre question, si avait pas trop loin, au minimum, on sera donc à 450 ppm. Et donc, par rapport à cet aspect photosynthèse, si on reprend ces courbes, je vous dis, qui existent dans des bouquins de physiologie, classique, on voit, alors c'est la teneur en CO2 qui est là, et puis l'intensité de la photosynthèse. Donc quand on passe d'un peu en dessous de 400 à, par exemple, un doublement de CO2, parce que pendant beaucoup d'années, avant que sortent les différents scénarios du GIEC, de l'IPCC, c'était l'hypothèse d'un doublement de CO2 qui était évoqué. On travaillait sur, en gros, un siècle, c'est-à-dire le nôtre maintenant, mais à la fin du siècle, avec un doublement de CO2. Bref, à l'heure actuelle, si on regarde, par exemple, 2050, on sera pratiquement, dans tous les cas, à 500, 600 millimètres. On sera un peu en dessous, ppm, on sera un peu en dessous de ce doublement de CO2. Mais quoi qu'il arrive, ce que vous voyez, c'est que la courbe qui est indiquée en C3, alors une différence avec les C4, c'est des familles de végétaux. Le nombre d'atomes de carbone qui est fixé dans le processus de photosynthèse, m'en demandez pas plus. Hein. Mais en gros, C3, c'est la plupart des plantes qu'on connaît chez nous, et puis C4, c'est les plantes d'origine tropicale comme le maïs, le sorgho, la canne à sucre, etc. Alors, ce qu'on peut voir là, c'est que dans le cas des C3, vous voyez, ça, le doublement de CO2, donc on sera peut-être un peu en dessous en 2050, puis en 2100, on verra bien, mais en gros, ça peut arriver jusqu'à 30%. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est loin d'être à la marge. C'est un effet très important, cette stimulation du CO2, dont on peut penser qu'elle sera notablement plus importante que pour les plantes en C4. Et quand on regarde ce qui doit être par la suite, par exemple, quelles conséquences du réchauffement sur les cultures soit en milieu tempéré, soit en milieu chaud, milieu les climats du sud. Finalement, c'est, on l'oublie un peu, c'est aussi un des éléments qui fait que c'est plutôt plus désastreux pour le sud que pour le nord. C'est parce que dans le sud, c'est surtout des plantes en C4 qui bénéficieront peu finalement de la stimulation de la photosynthèse. Alors cette stimulation de 30% ou un peu moins, donc elle est finalement assez déterminante dans le fait que pour beaucoup de productions agricoles, le changement climatique n'est pas forcément n'aura pas forcément des effets négatifs. Ceci étant dit, ça fait encore l'objet de controverses scientifiques, comme il y en a partout, il y en a dans les modèles, il y en a tout le temps dans l'océan. Et là, parce que finalement, au-delà de ces manips qui sont toutes issues, là, il n'y a pas de discussion, de plantes que vous mettez pour déterminer les lois fondamentales à l'échelle d'une feuille ou d'un couvert qui est mis dans une chambre climatisée, vous l'éclairez, vous faites vos mesures et vous avez ça. Et puis sur le terrain, ben, il se passe des tas de choses, des tas d'adaptations. Et il y a beaucoup de résultats. Alors, la plupart des expérimentations, au départ, c'était dans des chambres fermées, puis on a toujours le même problème dans nos domaines, c'est que dès que vous fermez quelque chose, c'est plus le vrai fonctionnement de la végétation que vous voyez. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été élaborés en amenant du CO2 sur le terrain par des végétaux qui restent dans leurs propres conditions climatiques en général. Et donc on souffle du CO2, puis on mesure que sur ce qu'il y a au-dessus, c'est bien à peu près deux fois CO2 ou un peu moins. Et là, donc, il faut regarder sur une culture toute une année, il faut regarder sur des arbres, etc. Et là, il y a des controverses qui font rage entre ceux qui disent que oui, ils ont observé sur 10 ans que ça se continuait, et puis d'autres qui disent qu'ils observent ça la première année, puis qu'après, il y a une espèce d'adaptation et que l'effet finit par disparaître. Donc, ça peut faire partie de certaines interrogations, et quand vous voyez des textes là-dessus, quelles conséquences, vous pouvez trouver des résultats très variables, d'abord parce qu'ils sont variables, mais ensuite parce que, suivant qu'on tient compte de l'augmentation du CO2 ou pas, les résultats sont évidemment très, très différents. Alors, les grandes tendances par rapport à l'agriculture en premier lieu, et toujours en s'appuyant sur la modélisation, là aussi, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, les seuls résultats qu'on aurait eus, c'était en mettant des plantes dans des serres et puis en ajoutant du CO2, en modifiant les températures, etc. Mais toujours pareil, les réactions sont pas forcément les mêmes. Donc on utilise toujours ces données-là pour établir certains points, mais tout le reste, eh bien, on va représenter le fonctionnement des cultures ou de la forêt ou de végétation naturelle par des modèles là aussi qui assemblent les processus élémentaires à l'échelle de temps d'une heure, d'une journée. Et on utilise finalement de plus en plus ces modèles pour à la fois interpréter ce qui s'est passé, mais aussi essayer de se projeter dans l'avenir avec des projections, sinon des prédictions. Le GIEC, en 2001, avait déjà fait une analyse, et c'est à partir de ça que ma collègue Nadine avait fait cette statistique. Le rapport de 2007, parce que bon, vous avez dû en parler, mais le GIEC, il y a trois groupes de travail, quoi. Le groupe des modélisateurs du climat, c'est le groupe 1, c'est ça, ce qu'a dû tout à l'heure présenter Christophe, et puis je pense que Pascal de l'Écluse de Fra, etc. Le groupe 2, c'est les impacts, les adaptations, etc. Donc, et puis la partie 3, c'est les gens qui travaillent sur les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle la mitigation, etc. Donc le groupe 2, moi je me suis retrouvé dans le groupe 2 pour cet exercice, et donc le groupe 2 évalue les impacts dans différents domaines, depuis l'océanographie l'océan, jusqu'aux glaciers, les glaciers, c'est parfois les physiciens, hein, mais c'est les glaciers, les conséquences des glaciers sur l'alimentation en eau, etc. L'agriculture, les forêts, les écosystèmes terrestres, la santé, j'en passe, et des meilleurs. Donc, pour en venir à notre domaine, c'est la grande tendance, c'est ce que je vous ai déjà indiqué. Si on regarde des résultats des simulations, donc il y avait eu 43 études, et sans adaptation, je vais revenir là-dessus après, Donc on prend une culture telle qu'elle est faite maintenant, les variétés qui sont faites maintenant, etc. Et puis on lui soumet les scénarios du futur. Donc vous voyez que pour les cultures tropicales, il y a une dominante de négatif ou nul, c'est-à-dire quelque chose qui est signalé de tendance générale dans les rapports du GIEC, c'est-à-dire que pour l'agriculture, comme pour beaucoup de conséquences, les conséquences seront surtout très négatives dans les pays du Sud. Dans les cultures tempérées, vous voyez que vous avez à la fois certaines cultures qui en bénéficieraient, d'autres qui n'en bénéficieraient pas et qui auraient un résultat négatif, d'autres nuls. Et tout ça est lié au fait que, au-delà de l'aspect positif que je vous ai signalé sur le CO2, reste la température de l'air, le bilan hydrique, et tout ça dans les zones tempérées peut avoir des effets relativement variés. Et puis dans le cas de la France, on va y venir. Mais ça surprend toujours les gens que pas forcément, mais que le réchauffement climatique puisse avoir des conséquences finalement pas forcément négatives sur l'agriculture. Imaginez un agriculteur du bassin parisien ou du nord de la France, vous lui dites je vais vous donner 2 degrés en plus, il est prêt à vous payer, quoi. Un agriculteur du sud de la France, pas forcément. Donc on retrouve entre le nord et le sud de la France cette espèce de dissymétrie qu'on va retrouver un peu partout dans les zones tempérées, entre des aspects positifs et des aspects négatifs, potentiellement. Alors, le GIEC de cette année là a refait une analyse relativement exhaustive et qui donne les tendances, qui résume assez bien les grandes lignes, hein. Alors, le blé en région tempérée et le maïs en région tempérée, à gauche. Donc, si vous reprenez directement les résultats qu'on a vus, c'est ce qui est en rouge. Vous voyez que pour le blé, ça peut être des augmentations de rendement, jusqu'à 3 degrés à peu près. Pour le maïs, au bout de 2 degrés, ça commence à être relativement négatif. Alors ça peut être surprenant parce que le maïs, il aime bien la chaleur, mais derrière, quand on met 2-3 degrés, c'est des scénarios qui à la fois produisent des changements de température, mais aussi des changements de pluviométrie qui sont associés. Et quand vous êtes dans le cas des conséquences sur la pluviométrie, le blé en général il est moins sensible parce que le blé, si on prend l'exemple de la France, a son cycle qui évidemment démarre beaucoup plus tôt et se termine au mois de juin, juillet, etc. Et la sécheresse qui peut être négative pour le blé, c'est plutôt mai, juin. Bon, alors que le maïs est une culture d'été qui, elle, va subir de plein fouet les sécheresses, comme c'était le cas en 2003, etc. Donc voilà l'explication. Alors que si vous prenez les régions tropicales, donc le blé à droite en haut et puis le maïs à gauche, vous voyez les courbes rouges. Dès qu'il y a 1 ou 2 degrés, ou même à 0, ça commence à être négatif. D'où le constat que vous retrouverez dans les résumés pour décideurs du GIEC, c'est-à-dire que le réchauffement modéré peut être positif pour les cultures en région tempérée, c'est à gauche. Par contre, négatif dès le début pour les cultures tropicales, et que dans les régions tempérées, au-delà de 2 ou 3 degrés, par contre, on va basculer vers les aspects négatifs. Alors, il y a aussi une couleur bleue, je l'ai pas oublié, donc c'est là qu'intervient l'adaptation, parce que bien évidemment, si on se projette à dans 50 ans, les agriculteurs, s'il y en a toujours, utiliseront des variétés, des techniques culturales, etc., qui seront radicalement différentes de ce qui peut exister maintenant, et donc s'adapteront. Il y a déjà des éléments d'adaptation sur les dates de semis, etc. Et si on simule ça dans les modèles, on arrive à la courbe bleue, où vous voyez qu'à chaque fois, avec l'adaptation, on peut gagner 10 à 15%. Donc, dans le cas du blé, par exemple, si vous regardez, si on l'applique à la France, avec la courbe bleue, le changement climatique, même à 4-5 degrés, c'est presque encore du bénéfice, quoi. Le maïs, il tombe à zéro, ça limite un peu les dégâts dans les régions tropicales. Donc là, il y a l'idée que par l'agronomie, on arriverait à limiter les dégâts dans les zones tropicales, mais quand même, ça restera négatif. Et puis, dans les zones tempérées, finalement, ça peut être quelque chose qui n'a pas forcément des conséquences négatives. Alors, je sais pas ce que je vous raconte, parce que j'arrête pas de dire pas forcément des conséquences négatives, etc. Mais bon, on peut être traumatisé certaines fois, parce que dans les assemblées agricoles, ou enfin, des agriculteurs, où je suis plus souvent que là, il suffit qu'on dise que ça peut avoir des conséquences positives pour que le lendemain, sur le journal de l'Indre-et-Cher ou je sais pas quoi, il y a un grand titre avec d'après l'INRA, le réchauffement climatique serait une bonne chose. Alors, bah, bon, on est traumatisé. Bon. Alors, si je résume donc le discours, oui, c'est celui-là. Pour les grandes cultures, le blé, le maïs, il y a des effets contrastés. Globalement, ça reste modéré toujours. Hein, vous avez vu qu'on est dans une fourchette de 10 à 20%, que ce soit au niveau de la France, de ce qu'on fait, ou même au niveau mondial. La qualité, on n'en parle pas beaucoup des grandes cultures, parce que la qualité du maïs, tout le monde s'en fout. Les vaches, elles font pas vraiment de différence. Et puis, le blé, il y a une petite différence sur la qualité panifiable, etc. Mais ça va rester beaucoup fonction du niveau de fertilisation, donc finalement assez peu encore de la culture. Quant aux prairies, il y a eu des travaux, c'est les noms des collègues qui ont fait ça, Clermont-Ferrand, donc production de biomasse augmentée de 20%, parce que la photosynthèse augmente, la saison de croissance est allongée, et ça commence plus tôt, ça finit plus tard, alors on pourrait mettre plus de vaches à l'hectare, etc., dans le Massif central. Bon, ça c'est donc avec à peu près les scénarios moyens, sachant que le grand talon d'Achille qu'il y aura, c'est réellement ce qui va se passer au point de vue de la pluviométrie et de sa répartition. Et là, tant qu'on a des valeurs moyennes, parce que vous avez vu que la plupart des scénarios donnent, bien sûr, une tendance inquiétante à l'augmentation de la sécheresse autour de la Méditerranée. C'est ça qui est très inquiétant derrière. Puis la Méditerranée, ça peut remonter jusqu'au nord de la France, hein, dans ce cadre-là. Évidemment, tout ça va être très sensible à la distribution temporelle des pluies. Et une valeur moyenne, ce qu'on sait, c'est qu'en gros, des estimations de réduction de la pluviométrie estivale de 20 à 30%. Si vous faites ça en moyenne, c'est pas forcément très 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 dramatique, hein. Mais quand vous avez des années où ça c'est plus que ça et des années moyennes, les années où c'est plus que ça, c'est vraiment très très fort comme réduction. Donc là, de ce côté-là, c'est vraiment au-delà de ces aspects qui sont moyens, légèrement positifs, c'est la grosse interrogation, c'est sur l'eau et qu'est-ce qui va se passer effectivement. Alors après, quelques exemples qui datent déjà d'il y a quelques années pour montrer que, compte tenu de la complexité du vivant, et sans en rajouter, c'est parfois au-delà des valeurs moyennes sur les seuils, des choses qui sont pas forcément très faciles à prévoir. Les arbres fruitiers, bon, il va y avoir le problème des hivers doux, parce que en hiver, c'est la dormance, c'est un mécanisme qui est fait pour les protéger du gel, etc., plus tard, donc ils restent inactifs, mais pour lever cette dormance, ils ont besoin de froid. Et lorsqu'il fait très doux, comme ça a été le cas l'année passée, vous avez dû entendre, il y avait des grandes interrogations, et puis tous les jours, on nous demandait ce qui se passait, et, bon, on disait, ça risque bien sûr de plus tard d'avancer la durée de végétation, les stades de végétation, etc. Mais la plus grosse conséquence, ça peut être que certains arbres fruitiers, par exemple les abricotiers, quand ils n'ont pas assez de froid, ils sont perturbés, quoi. Ils ont des floraisons très bizarres, des bourgeons qui chutent, etc. C'est pas très bien analysé, mais on a vu des premières, je dirais, conséquences un peu de ce style dans le Roussillon, donc un endroit encore plus chaud, sur quelques années, avec des chutes de bourgeons floraux. Évidemment, il n'y a pas de fruits une fois qu'il y a ça. Ceci étant dit, l'année passée, il y en a eu moins que les autres années. Donc là, on perdait un peu on a toujours perdu notre latin pour savoir exactement le déterminisme de ces hivers doux et de ces troubles qui résultent. C'est pas encore quelque chose de très bien connu. Par contre, ce qui est bien connu, alors là, vous allez le voir, c'est l'avancée des stades phénologiques. Donc la phénologie, c'est l'apparition de différents stades de développement tout au cours de la saison. Et là, en particulier, l'époque de floraison, qui est pratiquement déterminante pour les arbres fruitiers, soit par le, ce qui est le plus connu et le plus apparent, le gel vraiment des fleurs, soit même s'il n'y a pas de gel, quand il y a des conditions relativement froides pendant la floraison, ça conduit en général à des baisses de rendement, soit parce que il y a des influences de température sur la croissance du tube pollinique, etc., soit directement au niveau des abeilles qui, en dessous de 10 degrés, sont frileuses et puis elles veulent pas sortir, quoi. Bon, alors, ceci étant dit, le gel est plus connu, et si vous demandez à un climatologiste quelconque dans un climat plus chaud, ce que vont faire les risques de gel, il va vous dire qu'ils vont diminuer, c'est évident. Oui, bien sûr, en termes de température. Mais le gel pour les arbres fruitiers, c'est une coïncidence entre un stade de floraison et une certaine température. Et la sensibilité augmente au fur et à mesure que les fleurs se développent. Pendant un certain temps, elles restent insensibles au gel. Donc, quand vous avez des floraisons plus précoces, et ça c'est bien connu, le risque de gel est plus fort. Et si on joint les deux, on arrive à des résultats comme si on avait fait des simulations sur Avignon. Donc vous voyez, à gauche, le pommier, dans le climat passé, il n'y avait pas très peu de risque de gel. Dans le climat récent, il n'y en avait pas non plus beaucoup. Et puis dans le climat futur, bon, il n'y en aura pas. Par contre, l'abricotier et le pêcher, qui sont très sensibles à ces régulations par la température, la date de floraison, ont fait apparaître en marron, puis après à droite, sur l'abricotier et le pêcher, des risques de gel très significatifs dans le cadre de réchauffement, sur certaines variétés qui sont celles pratiquées actuellement. Tout ça montre que finalement, l'effet d'avancée de la date de floraison risque d'être plus important que l'effet de diminution du risque de gel en climat. Et ça illustre le fait qu'il y a des effets tout à fait difficiles à prévoir par simplement des températures moyennes. C'est à la fois la réaction du végétal qui va jouer, et ses complications par rapport à l'action de la température. Alors, quelque chose de très net et qu'on utilise beaucoup ces dernières années, parce que la vigne réagit beaucoup, ça, c'était des calculs simples qui ont été faits en 2002. À cette époque-là, la vigne n'avait pas encore beaucoup bougé. Une simulation sur les dates que vous voyez avec 0 degré, 2 degrés, 4 degrés, donc c'était assez fruste, il n'y avait pas des détails près. Mais comme ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les modèles, le premier ordre de grandeur, finalement, il est relativement confirmé ensuite. Donc, le débourrement, le moment où la vigne sort ses feuilles, donc 28 février maintenant, et puis avec 4 degrés, ce serait au 2 février. Bon, d'accord, ça avance. Après, la floraison est avancée aussi, là, on commence à avoir des risques de gel plus sérieux sur la vigne. Ça a été le cas un peu cette année, si vous avez suivi pas à pas cet hiver doux, fin avril, début mai, les vignerons disaient, il y a une sacrée avance, donc c'est peut-être pas mal, en année, mais on risque le gel. Bon, ça passe souvent à un demi-degré près, ça c'est un effet de seuil très fort, une production normale et une production qui peut être complètement détruite en quelques heures. Et puis alors, ce qui est spécifique à la vigne, ce que vous avez en début de la période violette, c'est la véraison, c'est le moment où tournent la couleur des grains, et c'est là que se détermine, d'après tout ce qu'on sait, dans la région du Languedoc par exemple, la qualité du vin, avec un effet relativement positif des températures nocturnes assez froides. Et là, on est à peu près pour le moment au 15 août, et avec 4 degrés de réchauffement, ça deviendrait le 4 juillet. Et alors, indépendamment du réchauffement du climat, évidemment, les températures de juillet, début juillet, sont plus fortes que les températures du 15 août. Alors, ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que les fêtes de la véraison, organisées traditionnellement à Châteauneuf-du-Pape au moment du 15 août, non, mais en plus, c'est une réalité, hein, je peux vous dire, ils sont en train de les avancer chaque année, c'est le 8 août, etc. Et puis, peut-être, ça rejoindra le 14 juillet, on verra après, mais bon. Alors, l'autre aspect, ça démontre aussi ces aspects finalement qu'on n'avait peut-être pas vu. Moi, il y a quelques années, on disait sur la vigne, ça va avoir beaucoup d'effets parce que la qualité de la vigne, enfin du vin, est très liée au climat. Donc, ok, ça reste vrai. Mais ce dont on s'est aperçu récemment, et ça va venir après, c'est qu'il y a vraiment des effets très nets depuis en l'espace de quelques années. Et ça, ça vient du fait que la vigne a son cycle principalement influencé par les qualités en été, et que quand il y a un réchauffement de 1 degré, ben, il y a plutôt un réchauffement de 2 degrés en été. Hein, si vous regardez les scénarios, les conséquences du réchauffement, c'est plus fort pendant l'été. Et en plus, ça se accumule à cause de cet effet de phénologie qui fait que là, pour une augmentation de 1 degré, la température active ressentie par la vigne est presque de 3 ou 4 degrés, quoi. D'où un effet d'emballement très fort qu'on va pas retrouver sur le blé, par exemple, parce que le blé, lui, au mois de mai-juin, s'il est avancé, bah, au lieu d'être la phase sensible en juin, ce sera en mai, et en moyenne, en mai, il fait moins chaud qu'en juin. Donc les cultures d'été sont particulièrement concernées. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le maïs, par exemple. Bon, mais, d'accord, mais le maïs, encore une fois, la qualité, c'est pas ça qui va être important. Et le maïs, c'est les effets de sécheresse qui vont jouer. Alors je vous ai parlé de l'adaptation. Donc on sait que derrière, il va y avoir des possibilités de jouer sur le matériel génétique, le choix variétal. Donc tout ça, est, en gros, permet de s'ajuster au climat. Et donc il y aura... petit à petit, dans l'arsenal des matériels génétiques connus et sans avoir besoin d'avoir recours aux OGM, donc comme ça vous ne poserez pas de questions là-dessus. Voilà. Alors ensuite, je rajoute un truc. Là où on nous le dit souvent, c'est par rapport à la sécheresse, parce que vous allez lire par-ci par-là qu'avec les OGM, on peut trouver la plante miracle qui serait capable de faire 100 quintaux par hectare avec 300 mm de pluie. Les agronomes de l'INRA, ils croient pas beaucoup, quoi, en général. Hein. Ne serait-ce que parce que photosynthèse et transpiration passent par le même canal, etc. Et que, à l'heure actuelle, on doit pouvoir faire des plantes génétiquement modifiées pour les spécialistes de génétique, qui y croient quand même pas mal, qui soient capables de résister à des conditions extrêmes, avoir du blé à 350 mm au lieu de 400 mm, mais le rendement sera toujours... a priori, on voit pas comment on pourrait effectuer un tour de passe-passe là-dessus. Bon, alors, pour le reste, il y a l'ajustement des techniques culturales, on peut avancer les dates de semis, etc., on peut ajuster tout le reste... Et c'est ça qui fait ce paquet d'adaptations que vous avez vu, qui permet soit de valoriser les effets positifs, soit de limiter les dégâts des effets négatifs. Alors ensuite, il y aura la prise en compte des effets sur la santé des plantes. Bon, ça, c'est une phrase très générale. Bien sûr, il y aura des effets sur les maladies, sur les insectes, et que tout ça, ça fera partie d'un ensemble. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment. Alors l'autre aspect qui est un peu plus difficile savoir ce que donne une culture qu'on connaît bien, etc., puis vous modifiez le climat, ça va, mais bien évidemment, les cultures, elles vont aussi pouvoir changer d'aire d'adaptation géographique, on n'a pas vraiment beaucoup d'outils, ou si on a des outils, je sais pas, on a toujours un peu du mal à les appliquer. Donc on sait bien qu'on va pouvoir cultiver de la vigne beaucoup plus au nord, du maïs grain beaucoup plus au nord. Donc il va y avoir des déplacements des zones de production. Les potentialités qu'on connaît vont être changées. On peut introduire de nouvelles cultures. Alors là aussi, ça vous évitera de me poser la question. Je vais aborder tout de suite les questions qu'on nous pose habituellement. Donc, est-ce que l'olivier pourra remonter jusqu'à la... J'en sais rien, au nord de la vallée du Rhône, etc. Oui, pourquoi pas. Je pense qu'en température moyenne, il peut à l'heure actuelle remonter. Finalement, les limites sont presque plus liées aux incursions des grands épisodes froids, comme il y a une fois tous les 56, 87, etc. Et ça, je crois que dans les modèles, on n'a aucune information là-dessus. On sait bien que dans un monde plus chaud, l'hiver sera en moyenne plus chaud, mais qu'est-ce qui dit qu'une fois tous les 30 ans, ça redescendra pas? C'est pareil, on se dit, tiens, les agrumes qui sont limités à Menton, etc., pourraient peut-être venir un peu plus vers la vallée du Rhône. Le mimosa le fait bien, etc., mais le mimosa, il se fait choper tous les 10 ans par un petit coup de froid. Donc, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui est lié à ça. Puis pour l'olivier, il y a quelque chose également qui est la qualité de l'huile d'olive, c'est-à-dire indépendamment de la température. Quelle production d'olives, même si on a des oliviers qui peuvent exister, d'ailleurs, Brison Saint-Innocent au bord du lac du Bourget, toujours entendu parler des oliviers, je les ai vus, dans ma jeunesse, alors je ne sais pas s'ils y sont toujours, mais ceci étant dit, même admettons qu'on puisse en faire ici, pourquoi pas, on aura du mal à imposer la marque de l'huile d'olive de Villeurbanne comparée à celle de Nyons. Alors je dis Villeurbanne parce que je suis né là-bas, hein, donc j'ai pas de... Alors... Indépendamment de ça, c'est bien là où on tombe sur le contexte économique, et puis du coup on tombe sur les terroirs, essentiellement pour la vigne, etc. Dire remonter du maïs grain au nord de la France, pas de problème. Remonter des productions viticoles, peut-être problème, quoi. Donc c'est une large question qu'on va pas évoquer dans le détail, mais qui se pose. Alors, des illustrations, vous voyez, en remontant à il y a pas mal d'années, la limite nord de la vigne, elle était bien déterminée, donc... là, c'était entre des températures d'un côté, une isotherme moins 1, on arrivait à peu près à dire, bon, ben voilà, on utilisait ça dans les cours sur la culture de la vigne. Vous savez que ça a pas mal varié parce que, finalement, il y avait de la vigne en Angleterre dans les années 1000. Et puis, alors ça, c'est un collègue de la météo qui écrivait ça en 1978. Avec les fluctuations qu'il y a eu, bien sûr, en allant vers le petit âge glaciaire, et montrant que la culture de la vigne avait évidemment subi ce refroidissement, mais c'est des discussions sans fin entre les historiens, à l'intérieur des historiens, entre ceux qui pensent que c'est le froid qui a fait que la culture de la vigne à régresser et ceux qui pensent que c'est le roi d'Angleterre qui avait décidé pour des raisons économiques ou je sais plus quoi. Enfin, il y a des discussions sur le déterminisme socio-économique. Et si vous connaissez le grand historien Emmanuel Leroy-Ladurie, il a consacré une bonne partie de ses travaux, de sa thèse, de ses bouquins là-dessus. Et on a travaillé récemment avec lui, enfin, discuté pas mal avec lui. C'est toujours très intéressant de discuter sur ces aspects-là. Bref, alors si on fait des cours, vous voyez que je vous dis que nous on n'est pas capable de les faire, c'est des Anglais qui ont fait ça il y a longtemps, mais bon, ils avaient besoin de financement par l'Union européenne, donc à l'époque. Hein. Non, mais je rigole, mais je reste persuadé que c'était l'époque de Madame Thatcher. C'est marrant les contre-coups. Et finalement, leur crédit était complètement coupé, donc ce truc, ils se jetaient sur les crédits européens. Alors que nous, on disait, bon, faut un changement climatique, et c'est ce truc-là, on se disait, ou on nous disait, hein, non. Ils ont créé de grandes équipes à partir de ça, alors qu'à l'époque, il y avait quand même un sentiment anti-européen qui n'était pas forcément minoritaire en Angleterre, quoi. Donc, voilà. Évidemment, alors on vous dit, la vigne va remonter. En Angleterre, c'est déjà le cas, Danemark, Suède, etc. Et même si, finalement, ça faisait rigoler il y a quelques années. Maintenant, ça paraît de plus en plus sérieux et de plus en plus établi. Bon, après, quelle stratégie par rapport à ça, par rapport au terroir, parce que ça, c'est aussi une courbe, vous voyez, c'est des vieux trucs, hein, mais température moyenne maximale, température moyenne minimale d'avril à juillet. On fait des choses plus compliquées, mais en gros, pas beaucoup plus précises que ça maintenant. Les principaux terroirs qui étaient comparés avec des terroirs très très chauds, et puis certaines fois je mets des flèches, alors peut-être qu'elles vont en venir après, mais regardez Bordeaux, Dijon, etc., avec 2 degrés de plus seulement, Bordeaux devient Perpignan, donc il n'y a pas besoin de longs discours pour s'apercevoir que c'est un truc qui n'est pas marginal là aussi. Alors ça, il y a des, quand je vous disais les travaux plus récents, il y a eu des travaux avec la modélisation de la vigne, c'est des travaux très récents, tout ce qui se passe à l'intérieur de la vigne. Et du coup, la Syrah par exemple, qui est pour le moment en gros la vallée du Rhône, dans le scénario B2, donc relativement moyen, ça pourrait aller jusque Bordeaux, etc., et puis le Cognac, le Val de Loire. Et dans le scénario plus important, à la fin du siècle, remonter jusqu'en Champagne. Tout ça se tient parce que, je suis parvenu là-dessus tout à l'heure, mais l'étude récente que tu as montrée là sur l'évolution du climat en France, de Météo France et température maximale, du coup, ils ont vu quelque chose qui doit exister depuis longtemps, mais qu'on regardait pas comme ça. 1 degré, ça fait à peu près 200 km, 180 km vers le nord. Donc vous dites, 3, 4, 5 degrés, on traverse la France entière en température. Alors, il n'y a pas que la température, il y a la pluie, etc., mais température moyenne, elle est là, quoi, l'ordre de grandeur. Un degré, c'est vraiment quelque chose de très très important, même si on sait qu'au point de vue microclimatique, vous allez dehors, il y a du soleil, le vent il bouge un tout petit peu, un degré en moins, vous l'avez tout de suite hein, en microclimat, mais ça n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Alors, la forêt, je vous en ai pas beaucoup parlé, mais il y a eu des études comme ceux pour les cultures. Le pin maritime, par exemple, c'est son fonctionnement actuel qui est là. Bon, à la limite, les ordres de grandeur, pas beaucoup d'importance, mais les anomalies, c'est-à-dire les modifications, alors 2008, 2048 et 2088, ce que vous voyez, c'est que petit à petit, les couleurs rouges, qui sont plutôt un effet positif, stimulation de la photosynthèse, température plus favorable, etc., petit à petit, sont en train de céder le pas par rapport aux effets négatifs, température trop forte et surtout réduction de la pluviométrie. Et vous voyez que le pin maritime, à la fin du siècle, là où il est, où il sera, il est plutôt déprimé avec une inversion dans les années à peu près 2050. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup d'éléments. La végétation en général, dans beaucoup de modèles, dans un premier temps, elle est stimulée, mais que ce soit la forêt française méditerranéenne, bon, mais tropicale, etc., à l'échelle du globe, et à partir de 2050, les effets négatifs risquent de prendre le pas, et du coup, avec beaucoup de rétroactions négatives pour le futur, parce que la végétation ne jouerait plus son rôle d'absorbeur de CO2, de régulateur des échanges, etc. Alors, là aussi, il y a des choses plus ou moins compliquées. Je vous parlais de la dormance. Les arbres aussi, ils ont besoin de froid pour débourrer. Oui, je vous laisse débourrer. Là, bon, oui. L'extension de la zone, vous voyez, de non-débourrement à cause de manque de froid, fait que là, l'épicéa serait menacée sur la moitié ouest de la France. Alors, là, on passe aussi à la répartition géographique, et donc, il y a des évaluations qui ont été faites par aussi des équipes INRA récemment, en se posant la question de dire, bon, c'est bien beau de dire le pin maritime et à faire ci, faire ça, mais où c'est qui sera le pin maritime? Alors, il n'y a pas la réponse, parce que on ne connaît pas en fait la possibilité de s'ajuster, mais en termes de niche potentielle par rapport à ce qu'on connaît, si on prend l'exemple du chêne vert, voilà où il est à l'heure actuelle, bon, en gros typique du climat méditerranéen, si on fait on établit des relations, on peut discuter là-dessus sur des facteurs climatiques, mais voilà, en gros, on arrive à reproduire avec des probabilités à peu près la zone de présence du chêne vert. Voilà l'actuel, et puis ça va vite là, des fois ça va plus doucement, mais bon. Donc regardez bien, bon. Voilà, donc il pourrait couvrir pratiquement la moitié de la France, et c'est pas vraiment étonnant le climat. Alors aussi on fait des trucs assez compliqués, et puis les choses simples donnent à peu près les mêmes résultats. Donc extension vraisemblable du climat méditerranéen. En termes de potentiel, par contre, on sait pas à quelle vitesse les chênes verts vont progresser, parce que les glaciations, déglaciations, il y a eu des ajustements de la végétation, c'est bien connu, tous les gens qui travaillent sur les biomes, etc., mais ça s'est fait en quelques milliers d'années, là en une centaine d'années, et il y a des études à l'heure actuelle sur la dispersion, beaucoup plus qu'avant, la dispersion des couverts forestiers par différents moyens, et c'est plutôt des estimations relativement faibles, de l'ordre, je sais pas, du kilomètre par an, etc. Donc il y a, ou moins même, et du coup il y a une vraie interrogation. En potentiel, c'est ça, qu'est-ce qu'il en adviendra? Alors, en potentiel, vu de façon plus large, ils ont regroupé comme ça les types de forêts. Alors, quand il y a écrit chêne, ça ne veut pas dire qu'il y a que du chêne, hein. Il y a des hêtres, etc., mais certaines formations. Donc voilà, et puis au bout du compte, vous voyez, un changement quasi total avec cette dominante du chêne vert qui va un peu partout, et puis le chêne et le hêtre qui disparaît, D'aucun seul être vous manque. Ouais. Et là, le, bah, des fois, je reprends tout un florilège sur plusieurs années. Alors, c'est, voilà. Et puis, donc, des conséquences potentiellement très importantes sur le paysage forestier, qui seront peut-être pas aussi importantes que ça, encore une fois. Mais en termes de niche et d'adaptation, c'est ce qu'on devrait avoir. Alors, je vais parler des maladies et des insectes. Il y a bien sûr des effets directs, très souvent on peut relier des expansions à des valeurs de température, mais il y a des effets de seuil. Alors l'encre du châtaignier, c'est une saleté qui atteint les châtaigniers, les chênes dans le sud-ouest. Il est limité par des températures froides, bien évidemment, si on réchauffe, après vous faites de belles cartes, mais bon, ça s'étend, hein. Alors après, il y a des effets indirects, les décalages de phénologie, et ça, entre... la bestiole qui se nourrit des fleurs de machin, mais qui, par la température, est avancée, je sais pas, d'une semaine, alors que l'autre est avancée de 3 semaines, et du coup, elle n'a plus rien à manger. Alors, du coup, elle n'a plus rien à manger, puis celle qui le mange au-dessus se trouve aussi fort dépourvue, etc. Il y a des tas d'exemples que vous trouverez facilement de tous ces effets de phénologie. Parmi les choses plus subtiles aussi, la nutrition azotée, il y avait des papiers de naturalistes. Donc, par rapport aux agronomes, je vous ai dit, bon, la nutrition azotée, il y a la fertilisation et tout ce que ça pose, et puis la teneur en protéines. Mais globalement, si la végétation fonctionne plus, comme l'azote est le même partout, ben, la teneur en protéines de la végétation naturelle sera plus faible. Et beaucoup d'insectes, tout ça, se nourrissent sur de la végétation naturelle. Et du coup, bah, ils seront un peu sous-alimentés. Donc, bon. Enfin, voilà. Tout ça, c'est pour illustrer que si les choses changent, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, voilà l'encre sur le chêne pédonculé qui se, alors, c'est aussi le châtaignier, hein. Voilà. Alors, les écosystèmes naturels, je vais pas rentrer beaucoup surtout, je regarde l'heure, hein, Gérard, tu me dis à quelle heure faut finir, hein, parce que il y a la pause café sous peu, quoi, hein. Ouais, voilà. Donc, il va y avoir aussi des différences sur la phénologie, sur les aires de distribution, pareil que sur la forêt, la composition des communautés, avec des dynamiques complexes. Et puis, ce que je vous ai pas encore dit sur l'agriculture, mais on reviendra. D'un côté, il y a les événements, enfin les évolutions moyennes. Puis, bien sûr, ce que tout le monde dit en hydrologie ailleurs, les événements extrêmes, qui sont sans doute plus marquants. Enfin, non. C'est complémentaire, je veux dire. D'un côté, il y a des évolutions moyennes, et puis de l'autre, des événements extrêmes qui arrivent. Alors, dans les événements extrêmes, dans nos domaines, il y a eu la tempête de 99 qui a quand même fait tomber une bonne partie de la forêt française et a détruit l'équivalent d'accumulation de CO2 par la forêt pendant à peu près 3 ans, quoi, hein, 4 ans. Et puis, il y a eu les sécheresses, évidemment, de 2003 et puis 2004-2005 dans le sud-est, c'est réellement inquiétant. On a l'habitude, bien sûr, de la sécheresse, mais là, ça fait la 4e, 5e année de suite, et on voit des conséquences sur les forêts et sur beaucoup de d'arbres, y compris même sur la vigne, de cette accumulation qui est quand même assez exceptionnelle en termes de durée et d'intensité. Alors la végétation de montagne, bon, je vais passer à toute allure les graphiques qui restent là, hein. Bah évidemment, avec tout ça, il y a des prévisions, des prédictions d'extinction de certaines espèces qui vont remonter et puis pouf, bah je sais pas, elles vont sauter dans le vide, quoi, hein. Bon, donc et puis les autres qui vont remonter et leur courir après. Évidemment, tout ça c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des interactions entre les autres, mais ça c'est la grande tendance. Alors après, le paysage français sera sans doute modifié. Donc voilà, les journalistes n'arrêtent pas de vous demander des cartes, etc. Donc on les a pas, puis on veut pas. Alors on est un peu focus, on leur dit, bon, je vous donne quelques indications. Alors là, c'est Science et Avenir, ils ont fait un truc d'après les indications. Alors après, on dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Bon, c'est pas moi, c'est le journaliste, hein. Bon. Alors les scénarios, évidemment, il y a toujours les limites sur la pluviométrie et surtout la fréquence et la variabilité, les événements extrêmes. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que maintenant, on nous demande de plus en plus. Là, se référer à la fin du siècle, c'était relativement tranquille parce que, bon, vous savez, si les conséquences sont différentes, on ne nous posera pas la question. Mais maintenant, on nous demande de plus en plus ce qui va se passer maintenant. Et là, au niveau des gens du climat, c'est pas facile pour eux parce que ils sont confrontés au manque, enfin aux limites actuelles de reproductibilité à court terme du climat par rapport à cette tendance à long terme qui dominerait tout à la fin du siècle, quoi. Et donc on a beaucoup de discussions pour essayer de voir ce qui risque de se passer par la suite. Alors bon, alors je passe à toute allure, hein. Il y a des vous voyez, plus en plus maintenant aussi, il y a des probabilités qui sont associées. Donc là, les risques de changement en fonction, par exemple, des modèles. Vous prenez les 23, 26 modèles et puis vous faites une analyse de fréquence là-dessus. L'occurrence des feux, quand les couleurs sont franches, c'est qu'on sait que c'est du oui ou du non. Là, par exemple, tout ce qui est rouge, ça va beaucoup augmenter. Tout ce qui est très vert, ça va beaucoup diminuer. Et puis là où les couleurs sont un peu, ben, c'est qu'il y a une différence. À propos des tendances, je disais par rapport à nous, la tendance, l'assèchement autour de la Méditerranée, elle est reproduite par tous les modèles. Par contre, si on vous pose la question, qu'est-ce qui va se passer au Sahel, il y en a la moitié qui disent qu'il y a plus de pluie, la moitié qui disent qu'il y a moins de pluie. Donc, au-delà des tendances en valeur moyenne, si on prenait la valeur moyenne, ce serait zéro, évidemment. Bon. Et puis, là aussi, l'évolution, donc au niveau du globe, la forêt à la non-forêt. Alors, si vous regardez, pour un réchauffement supérieur à 3 degrés, par exemple, vous regardez l'Amazonie, il y a une information qui sort beaucoup de modèles, c'est que indépendamment de la déforestation, dans un cas de réchauffement supérieur à 3 degrés, il y aurait plus beaucoup de forêts en Amazonie, et donc ça, évidemment, ça fait partie des interactions très très importantes. Alors je passe sur termine sur les observations. Bien sûr, on a constater le réchauffement au niveau de la métropole, avec ça que vous avez vu. La durée de l'été qui augmente, c'est-à-dire la température moyenne augmente un peu, mais c'est surtout la durée des températures très très élevées. Quand je suis arrivé à Avignon, en venant de Lyon, ben, il y avait, je sais pas, une dizaine de jours, etc. Ça nous paraissait déjà, il fallait résister au climat chaud. Maintenant, c'est 40 jours, 2 mois, et on résiste difficilement. Donc les observations phénologiques qui confirment cette évolution, ben là je les ai rassemblées, puis je vais m'arrêter là-dessus. On se posait vraiment la question par rapport à nos données climatiques, enfin il y a encore les années 2000, quelle était la part de ce réchauffement qu'on mesurait, qui était liée aux instrumentations, à leur implantation, etc. Donc météo aussi, ils ont fait des processus d'homogénéisation. Nous, on a eu des réponses en regardant ce qui finalement dépendait de la température. Donc, les agriculteurs nous disaient qu'il y avait des dates de floraison de plus en plus précoces. Vous voyez les observations en haut sur les dates de floraison des poires. Puis c'est vrai sur toutes les arbres fruitiers, par exemple. C'est vrai aussi sur les arbres forestiers. Toute cette avancée de la phénologie. J'y reviendrai pour terminer. Les dates de vendange partout, ça. Ça a été avancé de 3 semaines à 1 mois, quoi. Les viticulteurs sont tout à fait d'accord. Au début, on disait, mais il n'y a pas que ça, il y a les techniques culturelles, machin, etc. Puis quand on regarde, si, en grande partie, les dates de semis du maïs en bas à gauche qui ont augmenté, et puis la durée je vous disais que c'était un élément important, la durée des cultures. Si vous prenez le maïs à Toulouse, par exemple, ça c'est des calculs, mais en gros, basé aussi sur des observations. Dans le climat ancien, c'était 170 jours, pour ceux qui lisent mal du fond de la salle. Plus récemment, c'était quand même 150 jours. Et vous voyez que 2003, 2004, 2005, on était plutôt à 120 jours. Donc, en 2003, le maïs, même irrigué, hein, a fonctionné 120 jours au lieu de 170. Donc, c'est une grosse différence, quoi. Alors, je reviens juste aux observations phénologiques pour... On a noté ça et on l'a noté sur beaucoup d'autres choses, que ce soit les pucerons, que ce soit certains insectes, etc. Une grosse, finalement, évolution de beaucoup de choses dans les années 85 à 90. Vous voyez ici, là, parce que au début, on regarde ça bêtement, on regarde, boum, ça diminue, puis vous discutez avec un statisticien, il vous dit, oh, c'est pas significatif. Ordinateur, tu vas pas dire. Non, c'est pas significatif. Ah ben moi je vois quelque chose. Ben, si tu vois quelque chose, tant mieux pour toi. Enfin, ce genre de discussion entre spécialistes. Et puis en fait, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait regarder autrement et voir ici une situation relativement stable qui fluctuait petit à petit, mais enfin ou plus ou moins importante, mais surtout après un autre système d'équilibre. Et ça, avec des statisticiens, par exemple, d'autres, si vous reprenez les dates de séries de vendanges, on a refait ça, ils font ça à l'aveugle et ils vous trouvent une rupture, ce qu'ils appellent, dans cette période-là très très nette. Alors, je termine là-dessus, ça se termine en 89, donc si je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde en 89, tiens Christophe, bon, là, non mais je vais au niveau géopolitique, hein, la chute, voilà, bah, donc la fin de la, voilà, bon, donc c'est mon explication du réchauffement, et je vais m'arrêter sur cette couillonnade finale, bon,
au café. Une question. Je suis désolé, j'ai encore une question. C'est à propos des systèmes naturels. Vous avez dit que il y avait une augmentation de 1 degré, qu'une augmentation de 1 degré provoquait une migration de 200 km vers le nord ou 150 mètres en altitude. J'ai entendu dire que les systèmes naturels, qui étaient plus inertes que les systèmes cultivés, pouvaient supporter une migration de 200 km par siècle. Mmh. Alors, on peut lier ça, par exemple, à la rhizosphère pour les arbres. Donc, si on fait le calcul rapidement, c'est pas 1 degré qu'on nous propose en 2100, mais 4 degrés, enfin 3 degrés, moyenne 3 degrés. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait une migration envisageable de 600 km, et ce qui est incompatible avec la migration des systèmes naturels. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on se fait peur pour rien ?
Non, je crois pas. Il faut bien repréciser. Les 200 km ou 150, c'est vraiment des données purement de température, quoi. Hein. C'est la température moyenne. Après, il y a l'impact de la température. Alors, bien évidemment, les végétaux comme la vigne, comme différents cépages, sont bien adaptés à certaines conditions de température, mais si vous voulez, ont une gamme de variations qui est, d'adaptation qui est plus large que celle-là. Je veux dire, si vous prenez, par exemple, un chêne vert, on peut penser que, en reportant de 600 km la limite, par exemple, il sera à l'aise, finalement, du côté de 3, par exemple. Donc il y a deux questions. La première, c'est est-ce qu'il atteindra 3 ? Et c'est en partie ce que j'ai dit rapidement au passage. À l'heure actuelle, les modes de dissémination qu'on connaît sont très limités. C'est les ordres de grandeur que vous avez indiqués. Mais dans tout ça, des dynamiques de population, on n'est pas totalement sûr que les ordres de grandeur sont vrais, parce qu'il y a peut-être d'autres choses, et dispersion de graines, de pollen qui vont plus loin. C'est pas encore tout à fait bien. Donc on n'est pas sûr qu'ils arriveront à être là-bas. Mais en plus, si vous voulez, celui qui sera resté dans la Méditerranée, il aura pas comme seule solution de s'en aller, de migrer. Il pourra aussi rester là où il est, parce qu'il sera quand même dans ses limites d'adaptation. Donc la vigne, c'est un petit peu la même chose. Si vous regardez le classement de tous les terroirs français, ça avait été fait d'ailleurs dans les années 70, en fonction de certaines températures, vous dites pour telle température, on doit avoir du grenache, pour telle température du chardonnay, et si vous regardez la logique de répartition des vignobles en France en fonction de la température, vous avez bien ça. Mais en même temps, le grenache, il est capable d'être à 3 degrés de plus ou à 2 degrés de moins quand même. Donc il y a une gamme d'adaptation par rapport à des aires qui sont tout à fait optimales. Mais la migration, ça reste une des grandes inconnues, à quelle vitesse... Si vous prenez les paléo-quelque chose, botaniciens, par exemple, eux, ils vont vous dire, non, ça s'est fait sur 1000 ans, ça pourra pas s'ajuster, quoi. Hein. Les forestiers, ils sont pas non plus beaucoup plus. Alors, je sais pas si on peut dire optimiste là-dessus, parce que je sais pas où est l'optimisme ou le pessimisme, mais ils sont pas beaucoup plus sûrs. Dans ce qui mesure, les vitesses d'expansion sont relativement faibles.